Je rêve d'un monde où les gens s'occupent de leurs propres affaires.
Où les gens apprennent à se dire qu'un plan cul, c'est romantique aussi.
Où tout le monde peut aimer, sans limite.
Je rêve d'un monde où, en tant que mec, je pourrais m'habiller en jupe qui soit stylisée et où j'aurais pas de regard bizarre.
Où c'est ok pour une femme de ne pas vouloir d'enfant.
Où les relations amoureuses ne seraient pas le centre de nos préoccupations.
Moi, je rêve juste d'un monde qui soit pas horrible, mais ça, c'est pas forcément lié.
Perso, j'ai toujours été en couple exclusif et hétéro parce que c'est le modèle avec lequel j'ai grandi. Puis j'ai découvert qu'une amie avait plusieurs partenaires, Maxence, et elle m'a ensuite présenté Martin. Et lui, il aime plusieurs personnes en même temps. Ils sont polyamoureux et dans ma tête, tout s'est mélangé. Pourquoi est-ce que le couple existe? Est-ce qu'il m'aide? Est-ce que je me sens bien là-dedans? Et ça donne quoi si on change de modèle? Moi, je suis Léa Dubuc, et dans ce podcast, je vous propose d'embarquer avec moi dans leur monde, de les écouter et de se questionner ensemble sur les normes dans les relations amoureuses.
Je suis Maxence, et actuellement je suis en relation avec Brian, qui est ma relation principale. Je vois personne d'autre de manière émotionnelle, on va dire, et de temps en temps, je vois d'autres gens à côté, mais c'est plus des petits trucs moins importants pour l'instant. Les trois grandes phases de notre relation, il y a eu ce truc un peu d'été, on couche ensemble, c'est fun, sans vraiment rien de sérieux. Après, il y a eu le moment où j'ai pécho son pote et tout est parti en éclats, où je lui ai dit que je l'aimais, et puis finalement il m'a dit que lui il m'aimait, parce que le fait de voir ça, sa réaction, lui a fait prendre conscience qu'il était amoureux aussi. Et la dernière phase, c'est quand j'ai un pote de France qui est venu, Jean. J'ai compris que je pouvais aimer plusieurs personnes en même temps et que ça n'avait pas d'impact sur les relations que j'ai avec ces personnes. Que oui, je peux avoir une relation amoureuse avec Jean et genre coucher avec et tout ça. Et de l'autre côté, j'aime Brian tout autant. Genre, je ne l'aime pas moins parce que je vois d'autres gens. J'ai toujours autant envie de le voir. J'ai toujours autant envie de faire des dates avec lui, de coucher avec lui. Enfin, c'est deux choses très séparées, en fait.
Maxence, un peu comme moi, elle avait toujours eu des relations monogames. Enfin, ça, c'était avant Brian.
Une grosse partie des relations monogames et la manière dont la société voit les relations, c'est genre l'amour de ta vie. C'est genre la personne qui te complète, c'est genre tu n'es rien sans cette personne, tu vois. Enfin, il y a vraiment un truc de... si t'es tout seul, t'es incomplet, tu vois. Et moi, ça me dérange profondément parce que je sais que c'est quelque chose qui m'a marqué et qui, d'une certaine manière, me marque encore. Et j'ai beaucoup de ça et j'essaye d'en sortir parce que je trouve ça pas sain. Et en fait, pour moi, le polyamour, je pense que c'est une façon justement de me remettre moi au centre de mes relations amoureuses, en fait. Et de pas avoir une personne qui va être le centre de mon univers autour duquel tout va graviter. Avant, je pensais que le polyamour, c'était vraiment genre des partous, trucs comme ça, genre qu'un polycule, c'est forcément tous les gens qui sont dedans, ils s'aiment tous entre eux et ils font tous l'amour entre eux. Et en fait, pas nécessairement. La relation que j'ai avec Brian, vue de l'extérieur, ça peut être plus vu comme une relation libre, parce que j'ai pas de relation romantique avec d'autres personnes en ce moment. Ça reste une relation polyamoureuse parce qu'il y a la possibilité de... Je vais pas prendre le premier venu pour me mettre en couple avec à côté juste parce qu'il faut, parce que je suis polyamoureuse, tu vois. C'est pas des Pokémon, faut pas les collectionner, quoi.
Un polycule, c'est le groupe qui contient un polyamoureux, ses partenaires, mais aussi leur relation à eux. Si je tombe là-dedans un peu par hasard, je ne saurais pas par où commencer. Eux, ils ont défini un cadre qui leur convient à tous les deux. Ça s'appelle le consensus dans les relations polies.
La règle, c'était on chope pas d'autres gens l'un devant l'autre et on chope pas les potes.
Ça a l'air simple dit comme ça, mais en réalité, ça donne quoi? En ce moment, Brian, il fréquente et il aime une autre fille que Maxence et elle est au courant.
Si je sais qu'il va la voir et passer du temps avec elle, je peux avoir de la jalousie, mais un peu comme quand j'ai des potes qui vont faire une soirée sans moi, quoi. Qui couchent avec des meufs comme ça, enfin, je m'en fous, en fait. Le côté vraiment physique, sexuel, c'est pas un truc qui me rend spécifiquement jalouse. Moi, c'est plus les trucs émotionnels. C'est-à-dire que s'il va passer du temps avec quelqu'un d'autre et qu'il va avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, ça, c'est quelque chose qui potentiellement me met plus mal à l'aise. Mais j'essaye toujours de me raisonner en me disant que déjà, j'y peux rien. Enfin, je peux pas l'empêcher de voir d'autres gens, je peux pas l'empêcher de développer des sentiments pour d'autres gens, et que si un jour il est plus amoureux de moi, pour X raisons, que ce soit parce qu'il y a une autre personne ou pas, parce que ça peut être totalement indépendant du fait qu'il y ait une autre personne, j'y peux rien non plus, en fait. Et c'est la même chose dans une relation monogame. Si demain, ton mec avec qui t'es en relation monogame, il dit « bah en fait, je t'aime plus, ciao, j'ai rencontré une autre meuf, je suis amoureux d'elle, je me casse, tu vois. » Bien sûr que j'ai peur qu'un jour, il m'aime plus et qu'il s'en aille, mais dans toutes les relations que j'ai eu ça, et ça change pas grand-chose en fait en relation polie. C'est juste que bah, on essaie de plus communiquer et de dire les trucs où genre « bah ça, j'aime pas trop, ça me convient, ça va. » On n'a pas non plus trouvé 100% la clé. On est encore en train d'essayer de trouver le fonctionnement. J'avance un peu à tâtons, j'essaye des trucs. Des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout.
La raison pour laquelle t'as plusieurs amis, bah c'est la raison pour laquelle j'ai plusieurs partenaires.
Lui, c'est Martin. Je vous en parlais tout à l'heure. Dans sa vie, il a fait le choix d'expliquer son mode de vie aux autres pour vivre plus librement. Et comme moi, bah, les gens, ils ont tout plein de questions.
Je pense que vraiment, ce qui fonctionne trop bien, c'est de dire « Bah voilà, t'as vu, je suis ton pote, je suis quelqu'un de super normal, et pourtant je suis polyamoureux. T'as vu, les gens polyamoureux, ils sont super normaux, en fait. » Et sans faire d'efforts, avec le temps, ça va rentrer dans la normalité. En fait, il faut juste des figures. C'est pareil, au début, j'avais une petite aversion pour les poils sur les femmes, parce que j'étais grandi socialement comme ça, et j'ai changé d'avis, pas parce qu'on m'a tapé sur la tête en me disant « Faut aimer les poils sur les femmes, elles ont le droit, non, non. » C'est juste, à force de voir des femmes avec des poils, j'ai trouvé ça normal avec le temps et j'ai appris à trouver ça beau. Mais le polyamour, je pense que si tu côtoies des gens qui sont comme ça et normaux dans ta tête comme ça, bah avec le temps tu vas trouver ça normal. J'ai l'impression que mes amis qui me prenaient pour un ovni il y a 4 ans, pour eux maintenant c'est super normal et maintenant ils vont véhiculer ce discours de le polyamour c'est chouette, ou enfin en tout cas c'est pas si bizarre qu'on le pense, à d'autres gens en fait. C'est juste un vecteur d'ouverture et de... C'est presque un discours militant, un peu. Les grandes valeurs du polyamour, pour moi, c'est bizarre, mais ça porte un peu en avoir marre du couple exclusif monogame. Plus que adorer le polyamour, je déteste le couple monogame. La plupart du temps, c'est pas sain, c'est plein de non-dits, ça manque de communication. Parce qu'il y a un tabou sur le désir en dehors de la relation, je pense. C'est pour ça que c'est si compliqué de parler. Entrer en polyamour, c'est... avoir une conversation sur les modalités de la relation avec la personne. Pour beaucoup, c'est même pas une conversation. Enfin, la conversation n'existe pas. Par défaut, c'est exclusif, c'est comme ça. Donc en fait, déjà, pour commencer une relation libre, il faut déjà parler des modalités de la relation. Ça instaure un débat. Et puis aussi, je pense que l'information, c'est la clé. Quand on arrive, on pense que le polyamour, c'est... On confond très vite avec le libertinage déjà, alors que le libertinage ça peut être en couple exclusif, c'est juste aller voir ailleurs ensemble, mais pas chacun de son côté. Donc on le confond avec ça. Et du coup on pense aussi que les personnes polyamoureuses sont super sexuelles, alors que pas forcément. On parle de monogamie pour les couples exclusifs. Pourtant pour le polyamour on parle pas de polygamie, ça n'a rien à voir. Enfin, les deux antonymes n'ont rien à voir. La polygamie c'est quand toi tu vas voir ailleurs et ta partenaire peut pas. Ça, c'est pas équitable. C'est la règle en polyamour, c'est l'équité. Ce que t'acceptes chez l'autre, l'autre doit l'accepter pour toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma règle, hein, moi. Si c'est pas équitable, on sort du polyamour, on rentre dans la polygamie. D'ailleurs, c'est même illégal en Belgique, la polygamie.
Depuis 2004, au nom de l'égalité entre les personnes. Dans le polyamour, l'égalité des relations, elle est censée être respectée. Sa pratique, elle est tolérée, mais d'un point de vue légal, il n'y a aucune possibilité de reconnaître plusieurs partenaires. En théorie, égaux dans les relations, mais est-ce qu'on est égaux face aux autres, lorsqu'on en parle? De mon côté, je suis vraiment pas à l'aise pour évoquer ma sexualité en détail, parce que j'ai toujours l'impression qu'on va me juger.
Il y a un truc sous-jacent quand tu rencontres un homme. Le truc de base, c'est « Putain, c'est trop cool, tu peux coucher avec plein de meufs différentes. » Donc il y a la première phrase que l'homme en face de moi dit, c'est ça. Et après, je dis « Oui, mais ma femme fait la même chose. » Et là, il est en mode « Ah, ça c'est... » Ah ouais, non, du coup, je pourrais pas, dur. Enfin, voilà, tu vois.
Ça me rappelle quelque chose.
En fonction des gens que tu rencontres, tout le monde n'est pas forcément ouvert à ça. Et des fois, les gens, ils te catégorisent un petit peu. Surtout quand t'es une meuf, je me suis rendu compte... En parler avec d'autres meufs, ça va. En parler avec des mecs, très rapidement, il y a un peu ce truc de « Ok, donc je peux ken avec toi si je veux, tu vois. » Non. Ça change rien.
Il y a vraiment ce truc de... t'es en Don Juan, t'es un super beau gosse, tu pécho plein de meufs. Et il y a le truc derrière de... En fait, t'as un cuck, tu te fais tromper, t'acceptes que ta meuf, elle aille voir ailleurs. Il y a un côté qui est hyper valorisé en société, l'homme qui va voir plein de femmes. Pour plein de raisons patriarcales et machistes et tout. Mais en tout cas, c'est hyper valorisé en société quand t'as un homme de voir plein de femmes. Et il y a le deuxième truc de t'acceptes que ta femme aille voir ailleurs. Et ça, c'est pas du tout accepté socialement parlant. Et du coup, il y a cette ambivalence que, ouais, j'aime bien déconstruire, comme ça, on m'embête plus avec.
Pour le sociologue français Philippe Combessy, les femmes souffrent de ce qu'il appelle une binarisation caricaturale. D'un côté, la figure de la maman, personnage fait d'amour, quasiment asexué, et de l'autre, celle de la putain. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai peur qu'on me juge sur ma vie sexuelle. Pour Carole, qui est avec Pierre depuis 10 ans, l'annonce à la famille ne s'est pas passée comme prévu.
Nous sommes devenus polyamoureux avant d'avoir notre enfant. Un an avant que je sois enceinte, je pense. Et sur le coup, on s'est dit que ça nous regardait et qu'on n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais en même temps, on n'a jamais eu l'intention de mentir à notre fils. Et à un moment donné, ben, notre bébé est devenu assez grand pour prononcer des mots et faire des dessins. Pour Pierre, tout s'est bien passé parce qu'il s'en fout. Et pour moi, c'est plus compliqué. En fait, il pense que je fais volontairement des choses hors normes parce que je cherche l'originalité. Parce que je fais des trucs à la mode. Une fois, j'étais amoureuse de quelqu'un et j'ai appelé ma mère et elle m'a demandé « Ah, comment ça va ?» Et je dis « Ah, ça va très bien, je suis amoureuse. » « Ah, ne me dis pas ce genre de choses. Pour moi, il n'y a qu'une personne dans ta vie et c'est Pierre. » « Ah oui, bon, bah, d'accord. Pardon. » Ma mère, elle a été élevée dans une certaine cellule familiale. Elle a reproduit cette cellule familiale et elle a du mal à imaginer qu'on puisse vivre autrement et que ce soit pas moins bien, tu vois ?
C'est vrai, parce qu'en fait, en se sacrifiant elle-même, parce qu'elle est vraiment forte dans une idée de sacrifice, elle crée une valeur qui est après transgressée si elle voit qu'il y a moyen de vivre la même chose et d'offrir à ses enfants ce dont ils ont besoin sans être dans cet état de sacrifice. Donc forcément, ça crée une situation que, à mon sens, elle ne peut pas accepter puisque ça remet en cause ses choix de vie à elle et ça rend une partie de son sacrifice inutile.
Martin aime trois personnes en ce moment.
Je suis amoureux d'Emma. J'ai une relation régulière avec Rose, avec Margot, avec des amis aussi en soi. J'ai envie de les mettre dedans.
Mais la titulaire dans son cœur, c'est Emma. Il l'appelle mon amoureuse.
Le polyamour hiérarchique, c'est un polyamour où, comme moi, un peu, je vais dire ça c'est mon amoureuse, ça c'est ma partenaire, ça c'est une amie avec laquelle je couche. Ça, enfin, c'est un polyamour où on aimerait se détacher des labels et des noms qu'on donne aux relations et des étiquettes. Mais au final, on en met quand même. Même si c'est hiérarchique, c'est un peu plus fluide quand même. Enfin, je laisse ce qui se passe dans la relation déterminer l'étiquette et pas l'étiquette déterminer ce qui va se passer dans la relation. Et l'anarchie, je pense que c'est vraiment quand on essaye de pas mettre de label. Donc quand on se force à pas mettre de nom aux relations, qu'on les vit sans réfléchir et ça fonctionne très bien. Je pense que le polyamour anarchique, c'est un idéal qu'on n'attend pas trop. Parce que dans les faits, on est toujours forcé de mettre des petites étiquettes quand même. Et après, elles régissent un peu la relation malgré nous, ces étiquettes qu'on a mises. La communication, c'est si important parce que le polyamour, c'est pas une règle absolue. Aujourd'hui, on est polyamoureux et on l'est toujours et tout est permis. Ça reste une relation entre deux personnes ou plus. Donc il y a des contraintes intellectuelles. En fait, le polyamour, ça suppose juste que c'est pas monogame, mais c'est hyper variable. Parfois, si mon amoureuse, elle se sent pas bien, je vais voir personne pendant une semaine. Parfois, je vois personne pendant 3 mois juste parce que j'ai pas envie. On en parle, c'est variable. Il y a certains ou certaines partenaires qui vont plus inquiéter mon amoureuse que d'autres. C'est ce que les personnes exclusives doivent comprendre à propos du polyamour, c'est que c'est pas qu'on n'est pas jaloux, c'est juste qu'on a appris à gérer cette jalousie, on a appris à en parler. Évidemment, il faut un peu de confiance en soi, mais il faut aussi beaucoup de confiance en l'amour de l'autre. Faut pas que tu trouves que t'es le meilleur type sur Terre, il faut que tu penses que t'es le meilleur type sur Terre dans les yeux de ta partenaire, tu vois. Il faut accepter le fait que l'âme sœur puisse arriver demain, et j'en ai déjà parlé avec mon amoureuse, si demain elle rencontre un type ou une femme, et qu'elle est folle amoureuse et que ça passe au-dessus, eh ben, aussi, le polyamour, ça suppose qu'on va pas forcément casser. Je vais peut-être passer numéro 2. Parce que le couple exclusif sous-tend aussi que s'il y a quelqu'un d'autre, c'est fin, quoi. Là, s'il y a quelqu'un d'autre, ça peut genre juste changer.
En couple, j'arrive pas à parler de mes problèmes sans crier sur l'autre et sans vraiment l'écouter. Eux, ils passent par toutes ces étapes au nom de la non-possession. C'est l'un des piliers du polyamour, admettre que personne n'appartient à l'autre.
T'as pas envie qu'ils t'appartiennent. T'as envie que les gens qui passent du temps avec toi, c'est parce qu'ils l'ont choisi. Et c'est ça aussi que j'ai développé dans le polyamour, c'est qu'avec mon amoureuse, on se voit pas parce qu'on est des amoureux et qu'un amoureux, ça se voit toutes les semaines et tout le temps. On se voit quand on a envie de se voir. Si j'ai pas envie de la voir pendant une semaine, on se voit pas pendant une semaine. Et c'est là toute la valeur, en fait. C'est se dire, les choses qu'on fait par norme, parce que l'autre t'appartient, c'est pas en fait, c'est intéressant pour personne d'être un bourreau et d'être avec quelqu'un qui se force. Quelqu'un qui est dans une prison, t'es pas content qu'il soit assis là avec toi, il est dans une prison, tu vois. Si quelqu'un a le choix d'aller partout et qu'il décide de s'asseoir à côté de toi chaque semaine quand même, c'est une valeur de fou.
Avec le recul, je crois que j'ai déjà été dans une prison. Puis le célibat est arrivé et Tinder est devenu mon meilleur ami. Et mes relations ont pas mal changé. En un claquement de doigts, je suis passée d'une prison à des dates tous les soirs si je le voulais. Tinder, c'est plus de 60 milliards de matchs depuis sa création. Donc je dois pas être la seule et ça me choque pas. Avant, pour rencontrer l'amour, on avait le choix entre 4-5 partenaires. Un ami, un collègue, un voisin. Mais avec les applications de rencontre, la possibilité est illimitée.
Je pense que ça participe à cette ouverture de relations, cette Air Tinder, comme tu dis. Entre un célibataire qui a plein de bails et qui vit librement et un polyamoureux, il n'y a qu'un pas, en fait. Tu sais, ce truc de se dire ah ouais, lui, ça fait 6 mois qu'on se voit, on couche tout le temps ensemble et tout, mais on n'est pas en couple, on veut pas s'engager. Ça veut dire quoi ? S'engager, ça veut dire être exclusif, en fait. Donc, en fait, vous êtes un couple et vous vous aimez. Vous avez juste décidé de pas être exclusif. Les faits sont là, les mots, non. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont en polyamour sans le savoir, en fait.
Bon, c'est peut-être simple d'avoir des relations avec plusieurs partenaires à 25 ans. On kiffe la vie, on a encore le choix de voler au gré du vent. Mais qu'en est-il plus tard, quand on travaille, quand on est plus installé dans la vie ? C'est ici que le match se joue, celui contre celle qu'on appelle la matrice hétéronormée. Judith Butler a théorisé ce terme, et pour elle, c'est un dispositif de contrôle social entre les hommes et les femmes pour leur assigner des places conformes à l'ordre de genre, qui intègre l'enfermement conjugal dans le 2. La vie à deux, c'est le schéma dominant des relations. Mais il est aussi inculqué par toutes nos représentations, par nos familles, au cinéma, à la télé, dans les livres. Tous ces éléments forment la construction sociale de la réalité. On vit dans un monde qui nous représente les manières d'avoir des relations. Dans une voiture, deux places adultes, on vous offre un voyage pour deux. Même les logements sont construits avec une grande chambre parentale et deux petites chambres d'enfants. Café Poli, Bruxelles, 21h. L'occasion de se raconter ces galères de la vie autour d'un verre. Et moi, bah, je me rends bien compte que c'est pas toujours simple à vivre.
Le genre de truc un peu grave que tu sais pas comment gérer la première fois et qui a été notre dernière mini-crise entre guillemets.
La copine de ce Poli se blesse par accident pendant qu'elle est avec son autre partenaire. Il file aux urgences, mais là...
Pour moi, je suis le plus important pour elle. Et donc, s'il arrive un truc grave, c'est moi qui dois être avec elle. C'est compliqué, ce genre de situation. Comment tu fais ? Il t'arrive un truc avec son partenaire secondaire, mais s'il t'aime autant que toi, c'est normal qu'il ait envie de t'accompagner aux urgences, tu vois. Donc, est-ce que tu dois... Et là, c'était une espèce de guerre d'ego et de fierté masculine complètement déplacée.
Parfois, il y a des situations plus délicates.
J'ai rendez-vous avec ma gynécologue pour faire tous les tests, pour que tout le monde soit safe.
Sa gynéco pense qu'elle trompe son mec, mais Amandine lui dit qu'elle est polie. Et là, changement d'attitude.
Alors qu'au début, il y avait un peu une connivence, genre, ouais, je sais pas, c'était un peu genre, c'est notre secret à toutes les deux. Et après, c'était un peu, ah ouais, vous êtes des gens comme ça. Des gens comme ça, de mon expérience.
Pour Eva, c'est la maternité qui pose question.
Pour mon partenaire, on se trouve très bien là avec l'autre. Nous, on n'a pas de projet d'avenir ensemble parce que lui, il ne veut pas des enfants et moi, par contre, j'en veux. Je me pose des questions, je ne sais pas si mon projet de famille est compatible avec une relation polyamoureuse.
Mais est-ce que c'est difficile d'être une famille polyamoureuse ? Enfin, une polyfamille, quoi. Dans mon imaginaire, oui, mais au fond, j'en sais rien. Le construit social de la réalité assigne des rôles aux femmes et aux hommes qui prennent des formes très différentes. Par exemple, le modèle d'éducation bon flic, méchant flic. Mais quand on est trois ou plus, quel rôle ils ont les autres ? En Europe, avant, sous le même toit, il y avait des parents, des enfants, mais aussi des oncles, des tantes, des grands-parents. Et ça, ça fait plus que deux.
Et tu t'essuies pas sur le pyjama.
T'es pas censé manger que la dinde panée. T'es censé manger aussi le reste. Tu l'as fait hier et tu le feras demain.
Bienvenue chez Pierre et Carole. Ils vivent ensemble et depuis 6 ans, bah, y a une petite chose qui a changé leur vie.
Oui, pour quand tu repartiras. Maman et moi, on va profiter de mamie chez papa tant que toi tu repars.
Non, de papy et Mimi.
Mimi. Ce serait deux garçons.
Pour moi, il y a une première étape dans l'art de relation amoureuse. C'est ce moment où il y a l'énergie de la nouvelle relation, on est très très heureux et c'est souvent quelques mois où on a besoin de se voir vraiment beaucoup et où en même temps, c'est pas un problème que ce soit une petite bulle en dehors du monde. Et puis au moment où la relation va encore un cran plus loin et où l'autre personne dans la relation amoureuse peut aussi connaître mon fils, être impliqué dans d'autres aspects de ma vie, en une fois ça se détend à nouveau. Dans cette étape-là, c'est une étape où je fais assez confiance à la nouvelle relation pour qu'elle prenne une forme de rôle par rapport à mon fils, qui est clairement pas un rôle de mère, mais qui est un rôle de personne un cran plus proche tout de même que simplement un ami de passage. Je l'ai quand même à l'une ou l'autre occasion, quand je lui lisais une histoire, j'ai pu lui expliquer quel était l'arrangement que nous on avait à la maison, et donc il le comprend bien. Par exemple, quand je lui lisais L'élan fausse de Troie, il y a souvent des histoires où les deux sœurs sont jalouses vis-à-vis du héros. Et à un moment, je vais expliquer, ben voilà, tu vois, il y a certaines personnes qui ont ce modèle-là. Pour eux, quand ils ont une relation amoureuse, ils sont plus en sécurité, plus heureux s'ils sont sûrs que cette relation, c'est que entre eux. Et pour d'autres gens qui sont plus à l'aise, comme moi et ta maman, eh ben nous, on se laisse la liberté d'avoir aussi d'autres amoureux. Et ça ne fait pas vraiment débat ou problème pour lui, ça lui paraît évident et normal. Ça se fait de façon très très saine, sans problème. Et dans ce contexte-là, le seul inquiétude, c'est la rupture. S'il y avait une rupture difficile et quelqu'un qui partait complètement de nos vies, en fait, je pense qu'on gérerait ça comme on a géré tout le reste. C'est-à-dire qu'en général, on lui ment pas, on lui explique les choses sincèrement, et de façon générale, on lui parle comme à un adulte. Ça veut pas dire qu'on part de l'idée qu'il est capable de tout comprendre, de tout voir et d'être mis face à toutes les horreurs du monde. Si je suis triste, je vais pas lui cacher que je suis triste, je vais lui dire que je suis très triste de la situation, je vais lui dire on s'est disputé, ou on s'est fâché, ou la relation s'est terminée, c'est tellement douloureux pour nous deux qu'on a préféré rester à distance l'un de l'autre. Et si je me trompe pas à son sujet, très probablement qu'il me fera une espèce de gros câlin, et puis qu'il fera oui, qu'il me dirait peut-être qu'il est triste aussi, et puis on vivrait avec. Je pense pas que ça lui ferait un traumatisme terrible pour lui, et je pense pas qu'on aurait de raison d'essayer de lui cacher quoi que ce soit. Et je garderai l'espoir quand même qu'à un moment ou un autre, si cette personne est devenue importante dans sa vie, eux puissent rester en contact, même si c'est indépendamment de moi.
Je voudrais ajouter que notre fils n'a que 6 ans, et que donc on ne sait pas comment ça va évoluer avec le temps. Il commence à voir, à se souvenir des gens qui ne sont pas de la famille proche, quoi.
C'est vrai qu'on va peut-être être confronté à des difficultés qu'on ne connaît pas encore jusqu'à présent, mais je n'ai pas la même perception factuelle de la situation, parce qu'il me raconte quand même des anecdotes, parce qu'on est parti en vacances avec ma famille, et l'ex, qui maintenant est une amie, mais qui était ma compagne à l'époque, elle lui a appris les marches bizarres des Monty Python et plein de trucs comme ça. On s'est perdu dans les dunes. Enfin, il y a plein d'événements de cette période-là dont il me reparle régulièrement. Il ne demande pas où ils sont ou quand est-ce qu'on les verra pour la prochaine fois, parce que tout simplement, il est satisfait de la situation telle qu'elle est pour nous.
Voilà, il est dans l'instant présent et il n'a pas de doute sur le fait qu'il va revoir les gens. Depuis qu'il est à l'école, en fait, je pense qu'on va être d'accord sur le fait qu'on s'en fiche complètement de ce que pense la maîtresse, les autres parents d'élèves. Personne nous a fait de réflexion, mais je pense que si quelqu'un nous en faisait, on le ferait simplement les épaules en mode « ça ne nous intéresse pas, votre avis ».
De temps en temps, je vais le chercher à la garderie avec mon autre compagne. C'est maintenant que t'en parles que je me fais « tiens, oui, peut-être que je pourrais un jour me prendre une remarque désobligeante ». Mais je l'attends pas, je m'en méfie pas, je suis pas inquiet de ça, je me pose pas vraiment la question en fait. Et je serais très surpris que quelqu'un vienne oser me faire une remarque sur la question.
Je pense aussi qu'à l'école, les gens, ou en tout cas au moins sa maîtresse de l'an dernier, pensaient qu'on était séparés. je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de réflexion sur le polyamour, parce que je pense pas que ça leur soit même venu à l'esprit qu'on puisse ne pas être monogame. Elle était très intriguée et curieuse, parce qu'elle n'arrivait pas à nous situer. Dans la façon dont elle me parlait, les trucs, on sentait qu'elle marchait sur des œufs, qu'elle ne savait pas quoi dire. Je n'ai jamais pris la peine de lui expliquer, parce que, encore une fois, j'estime pas que j'ai à fournir d'informations. Ce qui nous intéresse plus, c'est la possibilité que notre fils souffre parce que les autres élèves se moqueraient de lui pour une raison ou pour une autre, parce qu'il n'a pas le même genre de vie. On lui apprend ce qui va lui servir plus tard quand il sera confronté à quelque chose éventuellement par rapport à notre polyamour, mais on lui apprend que les autres n'ont pas voix au chapitre, en fait, sur ce qu'il vit et ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. Si les ados en face décident de s'en prendre à quelqu'un, ils le feront, même si la personne est la plus dans la norme possible. Même si elle porte les bonnes marques, même si elle a la famille exactement comme il faut, même si elle a la bonne couleur de cheveux, de peau, le bon poids, les bonnes chaussures, on s'en fout, ils trouveront quelque chose. Ça sert à rien d'essayer de changer qui on est, parce que c'est pas qui on est le problème. Enfin, c'est pas ce qu'on fait le problème. C'est le fait que les gens en face aient décidé de nous faire chier.
Quand j'ai commencé ce reportage, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était trop facile de ne pas choisir. D'avoir de la stabilité d'un côté, de la passion de l'autre et de la folie ailleurs. Mais c'est en les rencontrant que j'ai réalisé que c'est des personnes qui vivent sans cesse dans le compromis. Par amour, mais aussi parce qu'elles mènent leur barque indépendamment de tout jugement.
Je voudrais pas donner l'impression que c'est tout cool pour nous, que ça marche tout le temps, que c'est très facile et ainsi de suite. C'est plus insécurisant qu'un autre type de relation. Et c'est souvent plus complexe aussi. Je pense que si on est très amoureux, on a quand même malgré tout envie de vivre ça. Mais ça vient pas sans prix. Et ce serait faux de donner l'impression que ça peut être un long fleuve tranquille.
Finalement, c'était peut-être moi qui transposais le construit social dominant sur l'imaginaire que je me faisais de ces relations.
Avant d'arriver à « on est polyamoureux », ça permet de poser la question sur les modalités du couple. Et juste ça, c'est déjà génial. J'adore les couples exclusifs qui se posent la question du polyamour, qui le font pas finalement, mais au moins ils se posent la question de « ça te gênerait si je vais voir ailleurs ?» Je trouve que ça devrait exister dans chaque couple exclusif. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de couples exclusifs qui sont en exclusif parce que c'est comme ça. Mais ceux qui sont en exclusif vraiment parce qu'ils désirent que leur partenaire et que ça leur va, ils sont rares. Moi, je suis pas pour un monde où il y a plus de couples exclusifs, je suis pour un monde où les couples exclusifs, c'est pas des couples frustrés, quoi. C'est des vrais couples exclusifs qui ont décidé de l'être.
Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis monogame. Enfin, je crois. Merci pour votre écoute, je suis Léa Dubuc et ce podcast a été réalisé par mes soins. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos idées pour les prochains sujets dans la barre de commentaires juste en dessous. Parce qu'on apprend toujours des autres. À bientôt !